Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la géographie des aînés et à la manière d'adapter les villes au vieillissement démographique. Selon l'INSEE, un Français sur trois aura plus de 65 ans en 2070. Ce n'était qu'un sur six en 2020. On voit donc l'ampleur des changements que les conséquences de la transition démographique impliquent pour l'organisation de la société. Les villes en particulier vont devoir s'adapter à ce vieillissement de la population. Alors comment les rendre plus accessibles, plus inclusives pour les seniors? Comment imaginer des logements adaptés et de nouvelles manières d'habiter? C'est ce que nous allons voir ce soir, en même temps que nous allons faire une géographie de la France des personnes âgées.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Pierre-Olivier Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés qui incite les territoires à s'adapter aux besoins des seniors. Et bonsoir à vous, Sophie Bunick.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé à l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières, et chercheuse associée à l'Institut d'Asie orientale. Vous avez travaillé notamment sur la géographie du grand âge en France, mais aussi au Japon, où vous vous rendez fréquemment. On va commencer avec vous, justement. On va commencer par la carte traditionnelle que vous nous avez apportée. C'est une carte qu'on peut visualiser sur la page internet de notre émission. Et puis, sur cette carte, on peut voir que sont représentées des aires géographiques où vivent en majorité les plus de 65 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cette carte et puis la décrire un petit peu pour nos auditeurs?
Tout à fait. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. C'est une carte qui figure en bonne place dans une fiche d'analyse de l'Observatoire des territoires, parue en 2017 et intitulée « Le vieillissement de la population et ses enjeux ». Je l'ai choisie parce qu'elle dresse une très intéressante typologie du vieillissement des territoires à l'échelle des intercommunalités en France. Et donc, elle catégorise les territoires en fonction des causes sur la durée de leur vieillissement et pas seulement en fonction, par exemple, d'un âge moyen qui ferait qu'ils seraient plus ou moins vieux. Donc, notamment, cette carte distingue d'abord les territoires qui vieillissent, alors par le haut ou par gérontocroissance, comme dirait le géographe et démographe.
Ça veut dire quoi?
Alors, Gérard François Dumont, j'allais le dire, c'est-à-dire que ça veut dire en fait les territoires où on assiste à une croissance du nombre de personnes vivant jusqu'à un âge très avancé. Mmh. Alors, on tend à
catégoriser. De plus en plus de personnes âgées.
C'est ça, de plus en plus de personnes qu'on dirait du troisième âge, donc 65-80 ans aujourd'hui environ, et quatrième qui serait les plus de 80-85 ans aujourd'hui. Mais c'est différent en fonction des pays et des niveaux d'espérance de vie moyen en bonne santé à la naissance. Et donc ces zones en gérontocroissance, en général, en fait, ces territoires, justement, on voit qu'ils sont en gérontocroissance parce qu'ils gagnent des habitants qui y viennent au moment de la retraite. Alors, autant des gens qui résident, enfin, qui vieillissent en bonne santé sur ces territoires ou qui arrivent au moment de la retraite parce qu'ils sont attirés par le cadre de vie. Et on voit sur la carte que c'est très vrai pour le littoral atlantique et méditerranéen. Et c'est un indice de leur attractivité.
Donc, on cherche le soleil à la retraite. On reviendra d'ailleurs sur ce point qui est très intéressant. Ce n'est pas toujours une réussite, ce choix de vie. Mais poursuivez.
Et par contraste, donc la carte montre aussi des territoires dont le vieillissement s'inscrit dans une histoire longue de départ des jeunes adultes vers des zones plus attractives, et on les retrouve dans la fameuse diagonale du vide en grande partie. Et en outre, sur cette carte typologique, elle met bien l'accent sur la trajectoire des grandes villes et des régions dites métropolitaines qui attirent beaucoup de jeunes. Autant dans leur centre que leur banlieue et leurs espaces périurbains, et en général sont plus jeunes que le reste du territoire français, mais dont le vieillissement s'accélère et le plus rapide en rythme ces dernières années, surtout en raison de la cherté de leur marché du logement, de sorte qu'elles sont quittées, des ménages adultes, des classes moyennes, à la recherche de régions moins chères.
Donc c'est intéressant de voir qu'une région peut vieillir pour deux raisons, soit parce que les jeunes s'en vont, soit parce que les retraités y arrivent. Un mot peut-être pour commencer, Pierre-Olivier Lefebvre, vous aussi sur cette carte, qu'est-ce que vous en retenez, vous?
Oui, alors en fait j'en retiens déjà une sorte d'amusement avec la définition d'un critère d'âge pour dire qu'on est des personnes âgées à partir de 65 ans sur cette carte-là, qui est pas forcément l'âge chronologique reconnu pour tout. Souvent, les statistiques nous donnent les plus de 60 ans. Et là, on parle de 65 ans.
Peut-être que ça évolue aussi au fur et à mesure.
Ça évolue, mais au final, ça pose la question de l'âge chronologique et comment, sur un territoire, on aborde cette question des personnes âgées. C'est-à-dire que, est-ce que quand on a 65 ans, on est très différent de quand on en a 55, en dehors du fait qu'on est en activité ou pas professionnelle? Ou est-ce qu'on est grand-parent ou pas? Et puis, l'autre question que pose cette carte, c'est est-ce qu'on est d'ici? Parce que on y a toujours vécu et que du coup on va durer longtemps dans sa vie à la retraite, ou est-ce que à un moment donné on a décidé d'avoir une migration et à quel moment on a cette migration. Et ce qui est intéressant dans cette carte, si on la projetait dans la durée, c'est-à-dire qu'on passait des 75 à 85, on verrait que dans cette période de 10 ans, il y a beaucoup de gens qui bougent encore pour déménager, parce que ils vont s'adapter aux enjeux du fait d'avoir intégré qu'ils vont durer longtemps. Et ça, c'est vraiment une donnée du 21e siècle. Par exemple, que ce soit dans des grandes villes ou dans les centres-bourgs, plus on prend de l'âge, plus on va déménager vers un périmètre où, quelque part, la mobilité va se réduire et que du coup on va trouver un périmètre de service, de possibilité d'aller et venir dans une géographie réduite parce que on veut avoir sous la main ou à portée de pas quelque part tout ce dont on a besoin en termes de soins, donc ça pose la question des déserts médicaux, mais aussi en termes d'activités culturelles, physiques, sportives, tous les enjeux de parcs, par exemple d'espaces verts. On a une étude là qui vient de sortir aux États-Unis sur des dizaines de milliers de personnes, où on voit que quand on a y compris en ville un périmètre paysager, eh bien, on a une qualité de vie qui est améliorée. Donc, c'est ça qui est très intéressant en regardant les cartes. Et puis, il y a ceux aussi qui se disent « je reviens de là où je pensais être ».
Je reviens chez moi.
Je reviens chez moi. Et à quel moment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce que, en fait, de là où je crois que je suis, ça a changé? Est-ce que je vais y être accueilli? Et là, ça demande aussi, de la part des collectivités, des territoires, de pas simplement dire aux gens, vous n'êtes pas sans savoir, comme si quand on était vieux, on savait tout de l'histoire locale, mais de permettre aussi de redécouvrir des choses. Par exemple, nous, dans Ville Amis des Aînés, on incite les collectivités, dans les journées d'accueil des nouveaux arrivants, à pas seulement parler aux étudiants, à pas seulement parler aux actifs, mais aussi à donner, je dirais, des éléments d'insertion aux habitants retraités et âgés.
Oui, parce que quand on parle de géographie au moment de la retraite, ou même plus tard, parce que ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a deux moments aussi où on peut déménager en prenant de l'âge, c'est au moment de la retraite, et ensuite au moment où on anticipe qu'on va avoir une perte de mobilité, et que du coup il faut peut-être changer
des fragilités,
de logement à ce moment-là. Et c'est très important, on va reparler, de bien imaginer l'intégration aussi sociale, parce que déménager quelque part, ce n'est pas que déménager dans un lieu, c'est aussi perdre des amis ou perdre un cadre social qu'on avait auparavant. Sophie Bunick, peut-être pour continuer sur cette géographie du grand âge, ce qu'on peut voir aussi un petit peu sur cette carte, c'est que le taux de vieillissement, il est plus élevé dans les couronnes périurbaines, dans les Antilles et sur les littoraux. C'est donc là qu'on va trouver les personnes seniors en plus grand nombre en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a davantage de personnes âgées dans ces régions?
Alors, ça peut être à la fois doublement parce qu'il y a donc.
On peut les prendre les unes après les autres.
Oui,
hein, parce
oui,
qu'il y a
oui.
Sûrement des raisons différentes pour chacune de ces zones.
Je dirais sa place. Zones. Alors, ça peut être l'attraction. Alors, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être l'attraction de ces territoires pour l'installation, dans ce qu'on pourrait appeler une mobilité préventive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, en prévention, et Pierre-Olivier en parlait, en prévention justement des conditions, d'améliorer les conditions de leur grand âge, vont vers des territoires où justement ils
donc estiment... ça c'est pour les littoraux, on a bien compris, mais par exemple pour les zones périurbaines, pourquoi est-ce que les zones périurbaines sont en tendance un peu plus âgées que les centres-villes par exemple? Ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs.
Oui, ça n'a pas toujours été le cas, alors c'est ce qu'on c'est ce que des géographes et démographes ont appelé une onde de vieillissement, mais on peut aussi parler d'effet de génération. C'est la conséquence sur le temps long des générations nombreuses de l'après-guerre, les baby-boomers entre guillemets, qui ont eu la possibilité d'accéder à la propriété d'un logement individuel et donc sont plutôt allés en banlieue.
Parce qu'ils ont tous emménagé au même moment, dans les mêmes endroits, aux mêmes âges. C'est ça que je comprends dans ce que vous dites.
C'est ça, il y a un emménagement souvent à un même âge, et c'est particulièrement vrai à l'échelle des lotissements, ça se voit à l'échelle de quartier, c'est très prégnant au Japon où j'ai visité des banlieues en vieillissement. Donc comme en fait il y a toute une génération qui s'installe au même âge, surtout quand les trajectoires étaient plus homogènes des individus il y a 30 ou 40 ans, s'installent au même âge dans un territoire. Donc les enfants, donc la cohabitation, le moment où les enfants partent pour aller faire les études, trouver un premier travail, arrive au même moment. Donc on se retrouve avec des ménages qui vivent à deux dans des logements relativement grands, ils vieillissent. Et au moment d'atteindre un âge qui justement pose la question du maintien à domicile, et donc de la possibilité de se maintenir dans un espace pavillonnaire où, par exemple, l'accès à des commerces et services nécessite la voiture, donc est marqué par une forte dépendance automobile. Et ben là, il pourrait y avoir justement départ de cette génération. D'où aussi, ça peut entraîner une hausse importante d'un coup du taux de vacances résidentielles.
Donc on risque de se retrouver avec potentiellement des endroits dans le périurbain qui vont tout d'un coup devenir assez vides, relativement vides, puisque toute une génération aura fait sa vie dans le périurbain, les enfants sont partis, et du coup, il y aura qui alors qui va habiter
dans ces... Il y a un renouvellement naturel sur ce type d'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a des cycles. On a créé des quartiers d'un seul coup, avec des maisons, donc avec des familles, avec des écoles, avec des centres de loisirs, avec des centres sociaux, avec des lieux sportifs, qui étaient faits pour, des générations plutôt jeunes et familiales. L'augmentation de l'espérance de vie a fait qu'en fait le cycle habituel, je dirais pas naturel, mais habituel de turnover de ces lieux a été ralenti par l'augmentation de l'espérance de vie, et du coup ça donne une sorte de phénomène de vieillissement sur un territoire, et puis à un moment donné ça va tourner.
Mais ça va
plus
tourner,
ou moins vite.
Le processus va reprendre à zéro, parce que donc on peut imaginer que ça va être des ménages jeunes du même âge.
Ça dépend de la mobilité des uns ou des autres. Et là aussi, je dirais la part du territoire dans l'anticipation, dans les PLUI, dans les SCOT, dans les schémas de cohérence territoriale, c'est aussi d'anticiper ces questions et de peut-être pas simplement avoir une vision trop étriquée quand vous disiez on se retrouve à deux dans une maison, c'est pas mal. Et en fait, trop souvent, les décideurs ont...
C'est pas grave, vous voulez dire?
Non, quand je dis c'est pas mal, c'est que on doit pas se sentir coupable parce qu'on a une grande maison et qu'on est tout seul ou à deux dedans. C'est après tout, souvent pour un grand nombre des gens, leur maison. Et même
on a le droit de garder sa maison.
On a le droit de garder sa maison, et même si c'est dans un logement social, on y a toute une histoire, tout un parcours et tout. Donc en fait, c'est comment on réfléchit la mobilité avant que ça aille mal. Et c'est comment on fait des propositions qui donnent envie.
Alors, quel type de propositions, par exemple?
Écoutez, des propositions, déjà, par exemple, de pas réfléchir en unité de consommation. Très souvent, moi, je vois dans les quartiers qu'on construit aujourd'hui, on se dit, c'est bien, on a tant de seniors, donc on va leur faire DT1, voire DT2. Un couple, il prend un T2. Un couple, il a envie d'un T3. Celui qui réfléchit au développement territorial, il propose pas une gamme d'offres, en réalité, les habitants âgés, même quand ils déménagent, même quand ils achètent de nouveaux biens par rapport à leur retraite, ils vont pas forcément être en cohérence avec la planification qui aura été faite, parce que on aura eu des idées reçues sur qui sont les habitants âgés. Si on veut un T3, je vais vous le dire très simplement, peut-être que quand on est dans un couple, on ronfle et que donc on veut chacun sa chambre, mais on va pas aller le crier sur les toits. Mais si ça c'est pas intégré par les décideurs, on va continuer de faire des logements pour papa, maman et un enfant, alors qu'on est des fois en contradiction. Et y compris pour les équipements, on va penser des logements avec des équipements, crèche, école et tout, sans forcément se projeter sur ce vieillissement de la population, avec des cinquantenaires, des soixantenaires qui vont acheter dans des nouveaux quartiers, et du coup il va pas y avoir les équipements dont ils auraient besoin. Et ça, ça va créer à nouveau une crise.
Mais en même temps, on se dit que ce qui est intelligent, c'est de créer des quartiers où il y a à la fois des T1, des T2, des T3, des T4 et des T5 pour que chacun, finalement, puisse habiter dans le logement qui lui convient. Peut-être que dans certaines villes nouvelles, dans certains quartiers qui ont été construits de façon assez rapide, au moment où on a eu besoin de beaucoup de logements, il n'y avait pas ces différentes typologies de logements, Sophie Bunick.
Alors, ce serait moins la type. On a quand même fait désormais dans les nouveaux plans de développement de logements, on fait attention à cette variété des typologies et on a pu agir dessus. En revanche, ce qui a pu être moins anticipé dans des villes nouvelles, que ce soit en Europe, mais aussi en Amérique du Nord ou en Asie, c'est déjà l'accès à l'équipement, c'est-à-dire l'équipement, la richesse des équipements adaptés aux différents âges de la vie.
De quel équipement on a besoin quand on est au-dessus de 65 ans ou de 85 ans?
Alors, beaucoup de des services médicaux, mais ce qu'on a aussi appelé, donc par exemple, des centres où les personnes âgées peuvent passer la journée. Mm-hmm. Donc, par exemple, au Japon, on appelle ça les centres communautaires de soins de jour. Ça existe aussi, ça s'est répandu aussi en Corée du Sud, en Taïwan, en Chine. En plus, par exemple, de maisons de retraite qui, là, sont des résidences permanentes pour des personnes avec ou des résidences seniors, c'est-à-dire qui permettent quand même de fréquenter le quartier au-delà de la résidence en tant que telle.
Et ça, on en manque aujourd'hui dans certains quartiers de France
Alors, dont on peut manquer et qui peut atteindre les personnes âgées, c'est beaucoup de commerces, services, restaurants de proximité qui fonctionnent comme autant de lieux de sociabilité ou des cafés, où on avait l'habitude de se réunir et où, au fil du temps, en fonction de la trajectoire prise par le territoire, on peut voir ces services se fermer, se dévitaliser, parce que peut-être ils sont en concurrence avec un centre commercial qui a été construit plus loin. Parce qu'il y a, d'une manière générale, une baisse du nombre de commerces et services indépendants à l'échelle des rues, par exemple, qui jouxtent des quartiers résidentiels. Et ça, évidemment, c'est des choses assez difficiles à anticiper. Après, ce qu'il faut aussi, là où il faut aussi avoir confiance dans les capacités d'adaptation de ces quartiers, c'est par exemple, on le voit que... et on le voit dans les politiques qui se soucient de l'adaptation des villes aux personnes âgées. J'ai pu le voir au Japon, c'est-à-dire que d'un côté, il faut maintenir le commerce, la vitalité de la rue, mais il y a des personnes âgées qui, en se déplaçant en voiture, en fait, ont aussi déplacé leur sociabilité vers les centres commerciaux, par exemple, et qui apprécient les centres commerciaux pour le fait qu'elles soient propres, bien éclairées. Ils ont ce qu'on appelle des food courts, donc des espaces intérieurs, couverts, chauffés et tout un ensemble en fait de services à l'intérieur.
Comment on explique, Pierre-Olivier Lefebvre, qu'à un moment donné, les centres des villes ont été des endroits où il y avait davantage de personnes âgées et qu'aujourd'hui, ça semble être plutôt l'inverse?
Alors, ça va, ça vient, on va dire. C'est la question, elle est plutôt de la capacité financière des habitants. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de centres-villes où la pauvreté a plutôt grandi. Si on extrait du calcul le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier qui en fait a pris beaucoup de valeur, mais ça ne veut pas dire qu'on a des capacités financières. On voit par exemple dans les CCS aujourd'hui des gens qui sont propriétaires de leur logement en centre-ville et qui vont demander des secours pour le chauffage. Donc, il faut être extrêmement prudent sur le rapport en fait à se dire que quand on est âgé, on pourrait être plus riche que d'autres générations. Ça demande beaucoup de nuances et peut-être encore plus dans le centre-ville. Ce qui est sûr, c'est que le centre-ville, il a deux fonctions. Il a une fonction d'habitation. Et puis, il a une fonction, je dirais, de canalisation des autres quartiers dans lesquels on a envie ou besoin de venir. Et là, les habitants âgés ont certainement un rôle à jouer. C'est-à-dire que, quelque part, quand je disais qu'il faut avoir le choix sur le commerce, il est soit d'aller dans un centre commercial, soit aller dans un centre-ville sur lequel on va avoir un certain nombre de souvenirs, on va avoir la capacité d'échanger, de se rencontrer. Et dans la démarche Amis des aînés, on travaille vraiment avec les collectivités pour qu'ils pensent la voirie, pour qu'ils pensent l'éclairage public, pour qu'ils pensent le mobilier urbain. afin qu'il soit adapté à l'usage des habitants âgés et pas simplement, je dirais, de faire quelque chose d'ultra fonctionnel en se disant c'est fait pour tout le monde, mais en intégrant les particularités que quand on prend de l'âge, on va avancer moins vite. Mm-hmm. On va avoir besoin de faire des pauses plus régulières.
Donc ça signifie...
On va avoir besoin de voir des contrastes par rapport aux escaliers ou aux trottoirs. Et ça, en fait, c'est l'accumulation de tout un tas de petits détails qui découlent d'une sorte d'observation et d'un échange avec les habitants pour que ça fonctionne.
Qui ne se voient pas forcément, mais qui vont être ressentis par les usagers les plus âgés.
C'est ça. C'est en fait ce que nous, on appelle le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que c'est en fait avoir des égards vis-à-vis des habitants âgés pour que, sans forcément nommer tout ce qui a été fait dans les détails, mais que les habitants âgés soient fiers du territoire dans lequel ils habitent et qu'ils se disent « je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ici, je trouve que c'est adapté à mon avancée en âge ». Quand on a ça, c'est une vraie réussite.
La ville de Xertigny, c'est donc une commune située dans les Vosges, à une vingtaine de minutes d'Épinal, qui a connu un passé industriel et qui aujourd'hui compte 2500 habitants.
Cette commune, elle est effectivement un peu vieillissante, puisqu'on va avoir 33% de personnes de plus de 60 ans, non pas par l'afflux de population âgée, mais par le départ des jeunes du côté des métropoles pour leurs études, pour leur travail. Donc finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Xertigny peut constituer une espèce d'étude de cas pour voir le vieillissement autrement, pas toujours du côté de la déprise, du côté du manque de dynamisme, du côté du ralentissement, mais plutôt penser le vieillissement comme potentiel une source de dynamisme pour un territoire.
Et de voir quels sont les enjeux aujourd'hui du milieu rural et comment les personnes âgées vivent en fait sur ces territoires.
Géographie à la carte sur France Culture avec cet extrait du film Bien vieillir dans un territoire rural à Xertigny par le programme de recherche PopSU, qui a d'ailleurs donné lieu à un livre publié par les éditions Autrement. Qu'est-ce qui se passe quand les habitants d'une ville vieillissent? Et il faut s'attendre, on l'a vu en introduction, à ce que ce soit de plus en plus le cas, Sophie Bunick. Qu'est-ce que c'est au fond qu'une ville qui vieillit?
Alors c'est une ville, très simplement, où la part et le nombre des personnes qui ont plus d'âge que
oui,
la moyenne
nationale.
Oui, mais
qu'est-ce que ça change au quotidien?
Ça veut dire, et je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal encore à prendre en considération en France, c'est le fait que justement des personnes qui ont un attachement et une histoire plus longue avec la ville, du fait de leur âge plus grand, deviennent majoritaires au sein de la ville. Mm-hmm. Et ne sont pas simplement une minorité qui auraient des besoins spécifiques à faire prendre en charge. Et je pense qu'avec l'avancée en âge des villes, il faut être conscient que justement des personnes restent actives. Et d'ailleurs, c'est un objectif qu'on appelle des politiques de vieillissement actif. On a un nombre de plus en plus élevé de personnes qui justement restent actives, que ce soit professionnellement, mais aussi socialement, associativement, au sein de la ville, et donc exprime une voix, exprime des avis, des besoins.
D'accord.
Sur la ville.
Moi, ma question, c'était, je vous la pose, Pierre-Olivier Lefebvre, peut-être que vous aurez une autre réponse. Qu'est-ce que ça change à une ville? Qu'est-ce que ça fait à la ville, finalement, qu'elle vieillisse?
Alors, ça change le rapport entre les générations. Donc, ça change la dynamique d'aller et venir en fonction des moments de la journée ou de la semaine. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, en fait, on a été assez peu éduqués parce que le nombre de personnes âgées étant plus important, on va, par exemple, les rencontrer tout au long de la journée. Et des fois, quand on rencontre des étudiants, ils disent « Mais pourquoi les personnes âgées, elles sont dans le bus, dans le métro ou dans le tram à 8 heures du matin ?» Pourquoi ils attendent pas que nous, on soit au lycée ou à la fac pour sortir de chez eux? Ils seraient moins serrés et nous, on serait moins serrés. Mm-hmm. Pourquoi ils vont à la boulangerie à midi alors qu'il y a la queue?
Pour voir du monde, peut-être.
Et ben voilà. Alors, d'une part, pour voir du monde, pour certains. Et puis, s'ils sont plus nombreux, il y en a qui vont dans les heures creuses, mais il y en a aussi qui vont dans les heures pleines. Donc, ça change en fait la visibilité des habitants âgés sur le territoire. Ça change le rapport entre les générations. Ça pose la question aussi des rythmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas, quand on parle de mobilité, on n'a pas tous la même façon d'aller et venir. Et donc, ça peut donner un sentiment d'insécurité quand on est âgé par rapport à quelqu'un qui va aller plus vite quand il est plus jeune ou quand il est avec d'autres moyens de locomotion qui ne sont pas les mêmes. Ça demande au final au territoire de réguler les différents types de mobilité et les différents types de générations pour que...
Comment on peut faire ça?
D'une part en parlant, c'est-à-dire en faisant des débats, en faisant des parcours en marchant, en faisant rencontrer les générations entre elles sur un sujet pour faire en sorte de se questionner, de comprendre le point de vue de l'autre, c'est-à-dire de pas penser que c'est nous qu'on n'aime pas, quel que soit l'âge d'ailleurs, et que c'est l'autre qu'on privilégie. C'est pour ça que nous on dit toujours, par exemple, une ville amie des aînés, c'est une ville amie de tous les âges. Mm-hmm. Parce que au final, on est tous une personne âgée d'un certain âge par rapport à une autre génération. Et puis c'est du coup une ville qui va structurer la transversalité dans ses politiques publiques. C'est-à-dire qu'elle va avoir d'un côté le champ sanitaire, médico-social, mais elle va aussi travailler sur la culture, sur l'architecture, sur la voirie, sur l'éclairage public. Ce sont des choses qui sont fondamentale pour, au final, intégrer les habitants, mais de la bonne manière.
Sophie Bunick.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur ces questions justement de changement des rapports générationnels. Et pour donner un exemple aussi, toujours tiré du Japon, où on a des villes où on a plus de 40% des fois de personnes âgées de plus de 65 ans. Ça veut dire aussi qu'on a plus de personnes âgées qui ne sont pas juste des habitantes qui seraient à la retraite, mais par exemple, on a beaucoup plus de chauffeurs, par exemple, qui sont âgés, de personnel dans les administrations des municipalités. Du fait de l'avancée en âge des personnes qui restent en emploi parce qu'elles sont contraintes aussi économiquement, du fait qu'elles doivent compenser un faible revenu de retraite, et parfois inciter aussi à rester en activité par le quartier lui-même, quand c'est par exemple des commerçants, parce que si cette personne ferme son commerce parce qu'elle vieillit, on aura du mal à trouver une personne pour la remplacer, pour assurer la continuité du service. Donc pour les villes, les implications, et Pierre-Olivier en parlait, il y a des dimensions alors assez faciles à identifier, urbanistiques, qui sont l'adaptation des infrastructures,
le mobilier urbain,
et aussi beaucoup d'enjeux, et ça c'est un des aussi un des enjeux importants, c'est au niveau de l'emploi local. Donc d'avoir une correspondance entre l'offre et la demande d'emploi dans des secteurs qui augmentent, de services à la personne, au niveau des soins.
Mais ce qui n'est pas toujours évident, parce que parfois les tarifs, les prix de l'immobilier sont trop élevés dans certains quartiers où il y a une demande pour des services d'aide à la personne, pour que les infirmiers ou les infirmières habitent précisément dans ces quartiers-là. Donc c'est ça aussi qu'il faut réfléchir, c'est comment faire coïncider en effet les besoins et les personnes qui peuvent venir assouvir ces besoins, Sophie Bunick.
Oui. Et en particulier, donc, on parlait tout à l'heure des territoires attractifs pour les personnes âgées et où, en général, justement, les parcs immobiliers, les marchés immobiliers sont plus tendus. Donc là, où en général, justement, tous les métiers liés au service à la personne ou dans le secteur médico-social ont beaucoup plus de mal à trouver des candidats parce que, justement, ils sont en général moins bien rémunérés, ont des conditions de travail plus difficiles et ne sont pas assez valorisés même sur le plan culturel.
Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à rajeunir les villes qui vieillissent, Pierre-Olivier Lefebvre, ou est-ce que ça n'est pas forcément nécessaire ?
Non, une ville qui vieillit, c'est une ville qui est aussi dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres générations, mais il ne faut pas voir les habitants âgés comme un problème de société. C'est pour ça que je trouve que le côté défi démographique est intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait, on a pris conscience qu'il y avait un défi à relever et qu'on voit l'effort qu'il y a à faire pour être en capacité de changer de modèle de société. Et c'est évident qu'on n'a pas le même modèle de société si on a 20% d'habitants âgés ou si on en a 50%. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça n'est pas bien. Ça veut simplement dire qu'on va vivre les choses différemment. Et puis derrière l'âge, il y a aussi la capacité, la différence entre les gens qui sont en pleine capacité et les gens qui sont en incapacité. Et un territoire qui a des habitants retraités et âgés, ça veut dire que il est riche de bénévoles, d'acteurs politiques, associatifs, caritatifs. Mon grand rêve, ça serait qu'il y ait un jour une grève de tous les retraités pour qu'on voit en creux la place qu'ils occupent.
Vous êtes à la bonne place pour le faire.
La place qu'ils occupent dans la société, parce qu'on trouve que c'est très normal. Regardez, aujourd'hui, il y avait une grève des enseignants et un grand nombre de parents, ont appelé les grands-parents en leur disant merci de garder les enfants. Mais c'est la même chose pour les élus. C'est la même chose pour les dirigeants sportifs, associatifs et tout ça. Et quelque part, c'est une richesse pour le territoire, pour la société, qu'on ne pourrait absolument pas remplacer, y compris pour les aidants des plus âgés. Si on devait, comme vous le disiez, mettre des services à la personne, en face de tous ceux qui seraient en incapacité parce qu'ils prennent de l'âge, parce qu'ils sont désorientés, parce qu'ils ont une maladie, parce qu'ils ont besoin qu'on les aide à faire leurs courses et ainsi de suite. Mais on ferait crouler notre système économique si on retirait d'un seul coup ou si on baissait, cette capacité de solidarité, de proximité, ou familial.
Est-ce que vous avez le sentiment, Sophie Bunick, que les seniors aujourd'hui sont un groupe social, un groupe qui est à même de peser politiquement et de faire entendre une voix, et on imagine que la transition démographique qui est donc à l'œuvre en ce moment va faire que ce groupe social va avoir de plus en plus de poids politique?
Alors c'est une question qui est discutée depuis longtemps dans les sciences sociales, que ce soit en géographie mais aussi et surtout en sciences politiques à propos de ce qu'on a appelé le pouvoir gris. Et là je pourrais renvoyer notamment aux travaux de Jean-Philippe Viriau du Randal en France sur le fait que... Donc oui, il y a un flou entre le fait que les catégories d'âge en soi ne sont pas des groupes sociaux, mais il est vrai que les personnes âgées... parce que justement, elles ont souvent longtemps été invisibilisées, alors même, comme le disait Pierre-Olivier, qu'elles sont quand même très actives au niveau associatif, au niveau politique, parce qu'elles peuvent, accorder du temps justement aux associations, aux clubs. Donc ce sentiment d'être invisibilisé les pousse, et ça peut arriver dans des pays, il y a eu des cas des divers pays européens, et ça existe aussi aux États-Unis, où les seniors en fait se regroupent en tant que lobby
lobby gris.
C'est oui. Ça, lobby gris, voulant en fait montrer que leur importance justement au quotidien est importante.
Et vous avez le sentiment que les municipalités, voire l'État, prend en compte ces adaptations des villes, que c'est une réflexion qui est enclenchée profondément en France, Pierre-Olivier Lefebvre?
Alors on progresse bien, jamais assez vite par rapport à ce fameux défi démographique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de décalage, hein. Je pense que le grand défaut de la France, c'est cette difficulté à anticiper. On est très bon en réaction. Par rapport, faut qu'on ait le feu.
Autrement dit, on se rend pas compte de l'ampleur.
On se rend pas compte
de ce qui est en train d'arriver en termes de vieillissement de la population.
On se rend pas compte du nombre. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est aussi nombreux à vieillir aussi longtemps. On a toujours eu des centenaires. La question, c'est le nombre.
Un Français sur trois, je le disais, en 2070, aura plus de 65 ans. C'est beaucoup quand même.
Je ne sais pas si c'est beaucoup, parce qu'en fait, à 65 ans, en 2070, on sera sûrement en bien meilleure santé qu'à 50 ans, en 1950. Donc en fait, la question, c'est comment on pose les choses par rapport... aujourd'hui, en France, on a une espérance de vie sans incapacité qui est extrêmement importante, et heureusement. Donc en fait, la question, c'est comment on trouve sa place. Ce qui est difficile, c'est de faire ce travail d'anticipation pour que justement on trouve l'équilibre entre les générations. Et la particularité qu'on a avec les baby-boomers, c'est qu'ils ont été jeunes et donc majoritaires, et qu'aujourd'hui, c'est c'est les mêmes qui vieillissent et qui peuvent être majoritaires. Donc il peut y avoir un fait de société de dire on n'a pas la même attitude quand on est majoritaire ou quand on est minoritaire. On se comporte
pas
de la même...
quand on a toujours été majoritaire.
Et encore quand plus quand on a toujours été majoritaire. Parce que ça paraît tomber sous le sens que c'est normal qu'on prenne une certaine place. Et donc sur ça, on prépare assez peu les choses.
Mais ça veut dire quoi ? Il faudrait faire quoi pour préparer davantage ?
Pour préparer davantage, pour moi déjà, il faut qu'on prenne conscience qu'on va durer, individuellement et collectivement. Or, quelqu'un qui part à la retraite, si vous lui posez la question, d'après toi, ton espérance de vie est de combien de temps ? Les gens n'en ont aucune espèce d'idée. Et quand je vous dis aucune...
Personne n'a envie d'y penser trop.
Oui, mais alors justement, et pourquoi il n'a pas envie d'y penser trop ? C'est parce que justement, on associe le vieillissement à l'incapacité. Donc si on veut arriver à préparer les choses, il faut que mentalement, socialement, on se dise que prendre de l'âge, ça n'est pas un problème. C'est plutôt en grande partie une chance... d'avoir du temps libéré, d'avoir une autre façon de s'investir dans son territoire sans être une personne qui a des problèmes. Si on fait pas ce travail-là, en fait, on n'aura jamais envie de se projeter puisqu'on aura toujours l'impression que le vieux, c'est l'autre et que le vieux, c'est celui qui va pas bien. Et ça empêche de s'imaginer demain et ça empêche les territoires de s'imaginer. Donc, ça veut dire qu'une ville, pour qu'elle se prépare bien aux choses, d'une part, faut qu'elle informe et qu'elle s'informe sur qu'est-ce qui se passe. Ensuite, faut qu'elle consulte les gens. Faut qu'il y ait un travail de participation pour comprendre qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble. Ça veut dire qu'il y a de la participation et de la concertation pour que ça fonctionne, et puis il faut qu'il y ait de la restitution de ce travail-là. C'est le travail qui est fait dans le design citoyen avec le Reactis à Metz, à Strasbourg et dans différentes villes. Et ça, c'est aussi ce qu'on pousse dans la démarche Amis des aînés, c'est de dire il faut qu'il y ait un travail de consultation avec les habitants parce que c'est là qu'on prend en fait conscience collectivement que la vie et la ville, elle change.
Vous êtes d'accord avec ça, Sophie Bunick ? Peut-être que vous l'avez vu dans vos pérégrinations au Japon, par exemple, où la société, on sait, est assez âgée. Est-ce que il y a plus de concertation ? Est-ce que on réfléchit davantage à ce changement qui est en train d'arriver, qui arrive déjà ?
Alors, même si ça fait, et c'est là où oui, je rejoins ce que Pierre-Olivier a dit, même si au Japon, ça fait plus longtemps, effectivement, que c'est ubiquitaire et qu'on parle beaucoup plus du vieillissement et qu'on en est beaucoup plus conscient que ça transforme toutes les sphères de la société, toutes les activités, la manière de voir les villes. Ce qui est vrai, c'est que au Japon aussi, c'est toujours arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on croyait. On savait qu'en fait, par les projections
démographiques... Pourtant, on devrait quand même pouvoir assez facilement anticiper ce genre de choses. Il suffit de regarder les naissances et de voir à 20 ans, 30 ans ce que ça donne, non ?
Je pense, mais c'est ce qu'on a vu en France jusqu'à très récemment, c'est qu'on s'imaginait qu'en soutenant un dynamisme démographique à travers la natalité, la fécondité, on pouvait atténuer le vieillissement. Mais même si on l'atténue, on a quand même un grossissement du nombre de personnes âgées. Et là où je dirais que pour pouvoir mieux anticiper aussi les défis que ça peut représenter pour les territoires, alors d'une manière générale, oui, on doit considérer comme une richesse le fait d'avoir plus de personnes âgées. En revanche, aussi être conscient qu'en fonction des territoires, justement, le vieillissement est aussi producteur d'inégalités socio-spatiales, à la fois à l'intérieur des générations et entre les générations.
Par exemple ?
Je veux dire par là que il faut pouvoir, justement, pouvoir mesurer, selon les territoires, le fait qu'on ait peut-être plus de personnes âgées qui, ayant eu une trajectoire plutôt stable d'enrichissement, de cumul, de patrimoine, au moment de son entrée, justement, dans l'âge... on pourrait appeler de la retraite et ensuite qui va plutôt vers une perte quand même graduelle des capacités physiques et cognitives, ces personnes non seulement vont faire ce qu'on appelle de la désaccumulation, c'est-à-dire utiliser du patrimoine qu'elles ont cumulé pour financer, par exemple, un changement de résidence, une adaptation de leur intérieur, des services à domicile, plutôt des services privés et tout en étant capable de transmettre à leurs enfants.
Ça, mais tout le monde ne peut pas faire ça parce que tout le monde n'a pas suffisamment d'argent pour ça.
Et c'est ça. Et il y a l'inverse des territoires et qui sont souvent des territoires justement plus stigmatisés, moins attractifs, où on a plus de profils atypiques de personnes, notamment des immigrés âgés qui ont des trajectoires beaucoup plus en dents de scie, ou des gens aussi qui, du fait du cumul de précarité, de difficultés au cours de leur vie, déjà non seulement vont vieillir plus précocement, c'est-à-dire avoir une mauvaise santé, des signes de mauvaise santé plus précocement, En général, on a des problèmes de maladie à un âge plus précoce, donc il faut financer plus précocement, et qui en plus ne pouvant pas transmettre à leurs descendants du patrimoine, leurs descendants justement il doit y avoir des mécanismes de solidarité familiale qui s'enclenchent pour pouvoir aider la personne âgée.
Hors antenne, vous me parliez, Sophie Bunick, au Japon, de quartiers qui étaient des quartiers jeunes et qui étaient des quartiers en hauteur, sur des collines au Japon. Et vous avez constaté, vous avez vu à quel point ces quartiers ont vieilli et c'est devenu un gros problème, le fait que ce soit des quartiers en hauteur, parce que c'était plus difficile tout simplement d'accéder à ces maisons quand on vieillissait. C'est vrai qu'on ne pense pas tellement à ça quand on pense à l'urbanisme d'une ville.
Tout à fait, et c'est ce que je tiens justement pour ce que je soutiens dans mes recherches, c'est-à-dire que c'est pas la ville qui s'adapte au vieillissement, c'est le vieillissement qui révèle justement les capacités d'adaptation et de résilience des villes, dans le sens où précisément, mais on en parlait plus tôt, donc des territoires qui étaient vus comme attractifs parce qu'ils permettaient une très belle vue. Sur des paysages littoraux, de collines, de montagnes magnifiques, avec justement l'immobilité résidentielle, le vieillissement notamment des propriétaires, ça devient des dénivelés qui peuvent être très difficiles à surmonter, même par exemple en utilisant des vélos électriques ou des voitures. Et donc à l'inverse, donc des territoires qu'on avait plutôt fui parce qu'ils étaient trop denses, peut-être pas assez d'espace vert, on en reconsidère justement la capacité de proximité à un ensemble de commerces et services.
Et donc il faut savoir anticiper aussi toujours. Les différents âges de la vie, à la fois quand on construit la ville et puis aussi quand on est soi-même quelqu'un qui est amené à déménager à plusieurs moments au cours de sa vie.
Eh ben, t'habites plus tout seul ?
Eh non, mon vieux, je suis en coloc.
La colocation des seniors est en plein boom. Normal, que vous soyez locataire ou bailleur, la coloc senior a plein d'avantages. Côté locataire, être en coloc vous permet de faire des économies en diminuant le loyer, au passage en bénéficiant éventuellement d'un plus grand espace. Et surtout, vous n'êtes plus seul. Ce qui peut s'avérer très utile quand on entre dans ses vieilles années. Bye bye la solitude et bonjour la sécurité. En cas de problème, voire en cas de perte d'autonomie, il y aura toujours quelqu'un à vos côtés pour vous venir en aide. Ou au moins pour prévenir les secours.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Enfin, en l'occurrence, là, c'était une émission de France 3. Ensemble, c'est mieux, le 11 octobre 2019. On est avec Pierre-Olivier Lefebvre et Sophie Bunick pour parler de l'adaptation des villes au vieillissement, mais l'adaptation des logements aussi, c'est important. Alors, va-t-on colouer, faire des colocations seniors? La question du maintien à domicile est aussi importante. Parlons des colocations pour commencer. Est-ce que c'est quelque chose de crédible ou est-ce que, pour l'instant, c'est infinitésimale, et au fond, quelles vont être les options qui vont s'offrir au logement pour les seniors à l'avenir?
Alors oui, la colocation existe sous deux formes, soit intergénérationnelle, soit entre seniors. Effectivement, elle est...
Ça existe, mais c'est important.
C'est très minoritaire. Malgré tout, il y a des choses intéressantes. Hein. Il y a un réseau qui s'appelle Cohabilis, qui coordonne et qui outille juridiquement toutes ces questions. Et on peut avoir un certain développement, en particulier, je dirais, pour la cohabitation intergénérationnelle dans les villes où il y a des universités, ou en tout cas, il y a une demande en proximité de logement et par rapport à ce que tu disais, sur aussi la cherté de l'habitat.
Et ça fonctionne.
Ça fonctionne dans des grandes villes.
Donc les jeunes sont d'accord pour collouer avec des personnes âgées et les personnes âgées sont d'accord pour collouer avec des jeunes qui ont potentiellement des modes de vie différents.
Voilà, ça fait partie des possibilités. Soit ils sont d'accord pour des raisons, je dirais, éthiques. Par exemple, on voit un certain nombre, je dirais, d'étudiants, du social ou du médico-social, où quelque part ils trouvent du sens entre leurs études et puis la colocation qu'ils font. Il y a aussi, je dirais, des raisons parfois simplement économiques. D'un côté, on a une personne âgée qui a une grande maison et une petite retraite et qui, du coup, va soit avoir un petit pécule en plus, soit va bénéficier de vie sociale. C'est-à-dire que dans le contrat, on va mettre qu'il faut manger deux ou trois fois par semaine ensemble ou aider à aller faire les courses ou des choses comme ça. Donc, il y a un côté de réciprocité.
Donc, et vous sentez un mouvement dans ce sens-là.
Il y a des choses qui sont absolument. Et par exemple, dans les communes, on a de plus en plus de résidences autonomie qui parfois étaient vieillissantes. Je vois ça à Besançon, où les derniers étages de la résidence autonomie qui ne pouvaient plus être affectés au logement pour les personnes âgées sont loués à des étudiants en échange de projets collectifs, de venir manger ensemble, de faire des actions. Donc ça existe, c'est pas majoritaire, mais ce qui est important, c'est qu'en fait ça fait partie de la gamme d'offres. Hein, tout à l'heure, on disait qu'il fallait avoir le choix, et en fait ça fait partie de la gamme d'offres pour soit vivre à domicile, soit vivre dans un nouveau domicile. Il y a une réponse intéressante autour de cette question, mais il y a aussi les questions d'habitat inclusif, par exemple, qui se développent énormément.
Alors c'est quoi l'habitat inclusif?
Les habitats inclusifs, c'est des lieux de vie où les gens vont déménager et où il va y avoir un projet de vie qui est défini par rapport au fait qu'on vient dans un nouvel endroit. Et j'en profite pour saluer mon épouse, puisque j'habite dans un habitat inclusif depuis 8 ans maintenant. Et donc, il y a 17 personnes qui ont chacun des T2 ou des T3. Et ils font le choix, je dirais, pas de cohabiter ensemble, mais d'être voisins, d'avoir une salle commune, d'avoir quelqu'un qui va faire le lien, où ils vont décider ensemble d'aller au restaurant, d'aller visiter un parc.
Donc avec des paliers, parce qu'il y a aussi un aménagement architectural.
Alors c'est, soit des petites maisons, soit en immeuble, où là, ça va être sur un palier avec une salle dans laquelle on va pouvoir aller, et avec des différents niveaux de service qui vont être soit que de la conciergerie, soit un accompagnement social plus important, ou des choses même pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, on va faire de la, de la colocation générationnelle autour des habitants âgés, avec des aides à domicile qui vont vivre sur place avec les gens.
Sophie Bunick, sur ces nouvelles manières d'habiter, ce qu'on peut imaginer aussi pour transformer la ville par l'habitation et pas seulement par l'urbanisme.
Oui, d'ailleurs, quand il était question justement du fait de relouer les logements qui étaient aux derniers étages plutôt à des étudiants pour aussi favoriser une mixité par âge au sein d'un même bâti, ce qui est important pour que l'habitat, justement par le logement, l'habitat permette l'inclusivité des seniors, c'est d'avoir un habitat et des environnements résidentiels, c'est-à-dire autour du logement, qui incitent les seniors à sortir au moins une fois par jour.
Qu'est-ce que ça peut être
chez elle? Alors, ça peut être justement un environnement qui, par le biais de la familiarité avec les voisins, et on parlait tout à l'heure des espaces communautaires, donne envie d'aller parler à la personne, des personnes qu'on connaît au sein du bâtiment lui-même. Donc, on rencontre dans les espaces communs ou dans les espaces extérieurs, des jardins, des espaces publics, des cafés communautaires, des salles qui peuvent être des fois tenues par les personnes âgées elles-mêmes.
Mais alors ça veut dire qu'il faut que des promoteurs s'emparent de cette question. Or, il y a un problème déjà de construction de logements en France. On construit pas du tout suffisamment de logements et on n'a pas tellement le sentiment que les promoteurs soient tellement dans cette démarche. Parfois, il peut y avoir des immeubles un petit peu expérimentaux, mais est-ce que vraiment ce mouvement-là est pris en compte? Si le parc immobilier ne permet pas, ce que vous dites là, Sophie Bunick, les gens ne peuvent tout simplement pas se loger dans ce genre d'immeuble.
Et du fait même des contraintes du parc immobilier, et je le vois d'ailleurs dans les sujets de mémoire que les étudiants à l'ESPI me proposent, le logement partagé, c'est-à-dire la cohabitation intergénérationnelle avec notamment des étudiants qui viendraient habiter dans des logements de personnes âgées, ça présente un double avantage justement d'aider à trouver des logements abordables pour les revenus des personnes jeunes et des personnes âgées dont les revenus sont plus faibles que les actifs d'âge moyen en général, et justement de permettre l'inclusion, oui, et de résoudre le manque en fait de construction.
Mais est-ce que les promoteurs et les organismes HLM, alors vous dites oui, Pierre-Olivier Lefebvre.
Oui, les bailleurs sociaux aujourd'hui ont beaucoup de projets très différents les uns des autres. D'ailleurs, l'USH, tous les deux ans, organise un prix pour mettre en avant les bonnes initiatives. Et par exemple, je pense à Habitat en Région avec Axantia, où ils ont fait une charte sur, en fait, comment travailler et se comporter vis-à-vis des habitants âgés de leur parc. Pour, au final, en fait, avoir des repères et avoir des sortes d'engagements pour améliorer le logement, pour avoir des liens avec le gardien. Donc en fait, des choses, je dirais, extrêmement simples qu'on avait parfois dans le temps, qui ont pu tomber un petit peu en déshabitude. Et là, il y a une vraie sensibilisation de la part des acteurs, des bailleurs sociaux, pour se dire que quelque part, aussi avoir des habitants âgés, ça peut être une chance pour eux, parce qu'ils sont régulateurs dans le parc social par rapport aux autres générations. Donc il y a un bénéfice à y trouver.
Et ça peut concerner le neuf comme l'ancien, parce que on hérite quand même de bâtiments anciens qu'on ne peut pas aménager, en particulier pour une meilleure communication des habitants entre eux, y compris des personnes âgées. Donc il faut penser un petit peu ces choses-là aussi. Sophie Bunick, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, quand vous vous demandiez justement, vous interrogez sur le rôle peut-être des grands opérateurs, bailleurs, promoteurs. Si on considère effectivement les choses à une échelle plus large, je dirais que les acteurs publics et privés peuvent être mis face à deux modèles plus larges d'adaptation des villes au vieillissement qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, qui est par exemple de plutôt favoriser une redensification qui consiste à inciter notamment, et on le voit dans les systèmes de transactions qui sont mis en place dans des municipalités japonaises, qui est d'inciter justement de façon préventive des personnes âgées à par exemple... les relouer par exemple leur pavillon plutôt situé dans des zones peu denses à des jeunes couples pour se voir offrir un logement.
Donc une sorte de bourse au logement qui permettrait d'échanger au fond en fonction, d'échanger pas forcément d'une personne ou d'un foyer à un autre foyer, mais avec un système de bourse pour qu'en effet on ait des logements qui correspondent davantage à nos besoins. Et en même temps, vous disiez, Pierre-Olivier Lefebvre, que c'est pas parce que on a atteint 80 ans qu'on a envie d'habiter autre part que dans sa maison et dans la maison où on a vécu toute sa vie.
Je reviens toujours à la même chose, il faut avoir le choix, c'est-à-dire qu'il y a une diversité de vieux avec différents âges et du coup il y a une diversité d'offres pour créer ces mobilités, je pense qu'il y a un facteur important, c'est de donner envie. C'est-à-dire que faut qu'on pèse le pour et le contre, de se dire, si je devais déménager, est-ce que j'y trouve plus d'avantages que de rester là où je suis?
Proposer une multitude d'options.
Par exemple, il y a des films qui s'appellent J'y suis, j'y reste, qui ont été faits par Leroy Merlin Source, qui sont très intéressants pour voir en fait comment.
Ouais. Leroy Merlin.
Voilà. Et c'est très intéressant en fait de voir comment les habitants âgés parfois préfèrent rester dans un habitat qu'on pourrait qualifier d'incapacitant. Parce que ce qui compte le plus pour eux, c'est leur réseau de relations, c'est l'habitude d'avoir la pièce qui est faite de telle ou telle façon. Et donc, ça demande une vision globale et le travail de la recherche sur ça, pour qu'on ait, des repères et des propositions qui soient efficientes auprès des collectivités, auprès des bailleurs, auprès des promoteurs, de mon point de vue, est fondamental. Une des choses, par exemple, on a fait un baromètre sur ce que veulent les vieux dans le cadre de la démarche Amis des aînés, sur les démarches participatives. Une des premières choses qu'ils demandent, qui ressort dans les demandes des habitants, c'est l'information pour comprendre l'offre de logement qui existe. Voilà, qu'on comprenne de quoi on nous parle. Parce qu'en fait, souvent, quand on est amené à déménager, c'est dans l'urgence. Mm-hmm. On a eu un pépin de santé,
donc
on était à
l'hôpital. Il faut prévoir un petit peu en avance de et déménager.
Pour prévoir, c'est comprendre ce qui existe. Donc, c'est donner envie, donner de la bonne information. Et puis, il y a des choses, des fois, très, très simples. C'est avoir une conciergerie. Qui va m'aider à changer une ampoule? Qui va me réparer le tout petit bricolage? Ça, c'est des choses qui, en fait, pèsent sur les habitants âgés parce que, quelque part, ils se sentent démunis pour trouver des réponses.
Sophie Bunick.
Oui, et j'allais dire à côté donc de modèles qui essaient d'inciter assez précocement les personnes à aller vers des environnements dont on sait que par la densité, l'offre en service, elles pourront rester justement adaptées au grand vieillissement. Il y a aussi le fait de tenir compte justement de l'offre existante, parce que le risque de reloger des personnes âgées, même si c'est des logements de meilleure qualité dans des environnements plus propices, ça délite leur réseau de voisinage dont on parlait. Donc elles préfèrent des logements incapacitants. Et donc à l'inverse, on peut tenir compte, et ça c'est un autre volet des politiques d'adaptation des territoires. C'est tenir compte du fait que les personnes âgées veulent vieillir le plus longtemps possible chez elles, même si l'environnement change pas forcément. On peut avoir des commerces, des services, une forme de dévitalisation dans les tissus urbains. Et dans ce cas-là, ce serait d'inciter ce qu'on appelle la procuration de mobilité.
Qu'est-ce que c'est que la procuration de mobilité?
Qui veut dire qu'en fait, et je pense ici aux travaux de Lionel Rouget, justement sur les périurbains, et de Martine Berger sur les périurbains en France, qui incite en fait à développer des services mobiles qui vont vers les quartiers où il y a beaucoup de personnes âgées, les personnes âgées sachant par internet, et c'est vrai qu'on a de plus en plus...
Par exemple, je ne sais pas, un bibliobus ou ce genre de choses.
Un camion épicerie, ouais. Un bibliobus, des activités, une infirmière, un infirmier...
Donc penser la mobilité peut-être à l'inverse, c'est-à-dire on se dit en effet vieillir dans le périurbain c'est un problème parce qu'à un moment donné on n'arrive plus à prendre sa voiture, on peut plus conduire, ça signifie donc que ce sont les services qui doivent irriguer le périurbain par exemple.
C'est ça.
Il y a ça, et puis il y a aussi des migrations nouvelles, c'est-à-dire que c'est les âgés qui vont changer de lieu de vie pour rejoindre leurs enfants, voire leurs petits-enfants, parce que au final, les nouvelles générations habitent là où il y a du travail, qui n'est pas forcément le lieu de naissance, et du coup il y a une sorte de tension, en particulier quand on est en perte d'autonomie, et il y a un arbitrage à faire. Entre dire je veux rester chez moi, mais du coup lequel chez moi? Est-ce que c'est le chez moi où en fait j'ai plus d'entourage, ou est-ce que c'est un nouveau chez moi mais dans lequel je vais retrouver...
Et qu'est-ce que vous conseillez alors, vous, puisque vous connaissez bien le sujet, Pierre-Olivier Lefebvre, est-ce que c'est des bonnes idées de se déraciner de l'endroit où finalement on a fait sa vie d'adulte pour faire sa vie du troisième âge, quitte même à retrouver ses enfants, ou est-ce que vous conseillez de rester dans le lieu où on a fait sa vie professionnelle?
Je conseille rien, je conseille de réfléchir à la question.
Vous avez quand même de l'expérience et vous savez comment ça se passe.
Moi, par exemple, mon papa très âgé est depuis 3 ans à côté de moi. Voilà. Mais il l'a fait à plus de 80 ans. Donc, quelque part, à un moment donné, justement, où sa mobilité s'est réduite, où ses réseaux relationnels s'étaient réduits, et du coup, il avait plus de bénéfices à venir proche de la famille qu'à perdre son réseau relationnel. Ouais. Moi, je pense que, par exemple, si on se pose la question de déménager, il vaut mieux vendre sa maison au moment où les enfants sont partis, pour se réimplanter quelque part avant même la retraite. Parce qu'en fait, le premier changement, la première rupture, elle est là. C'est on avait une vie familiale et puis on se retrouve.
Donc même si on continue à travailler, on change de ville pour aller par exemple à la montagne parce qu'on craint le réchauffement climatique. On sait qu'il va faire plus frais à la montagne. On n'attend pas d'être à la retraite.
Après la question de la capacité financière, est-ce qu'on peut avoir une double résidence ou pas? Ou est-ce qu'on peut trouver du travail à 50 ans en changeant de lieu de vie, en s'implantant dans un nouvel endroit? Je dirais que tout ça se réfléchit, se pèse, et puis on peut aussi avoir le droit d'essayer des choses. Par exemple, je vois dans des nouvelles actions d'habitat collectif et tout ça, j'ai vu dans le Nord, dans le pays de Mormal, des acteurs qui disent aux gens: vous voulez venir habiter dans ce collectif d'habitants âgés? Eh bien, venez tester. Et ne vendez pas ou ne rendez pas la location de votre logement pour les 6 mois qui viennent, parce que du coup, vous avez le droit de vous tromper.
C'est ça, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le rêve du déménagement à la retraite. Parfois, pendant toutes ces années de travail, on rêve de ce moment où on va pouvoir aller vivre là où on le souhaitait. Ça se passe pas toujours bien, c'est ça que vous nous avez expliqué
on a vu la cartographie là du littoral, où en fait on voit des gens qui avaient des résidences secondaires au bord de la mer et de l'Atlantique, et puis à un moment donné, au moment de la retraite, on a fait la migration, c'est-à-dire qu'on a vendu l'appartement en région parisienne ou dans une grande ville, et puis on s'est installé dans cette résidence secondaire et on s'est dit, puisqu'il y a la mer, puisqu'il y a la piscine, puisque c'est joli, les enfants et les petits-enfants, ils vont venir à toutes les vacances et tous les week-ends. Et puis en réalité, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Les territoires ne sont pas forcément adaptés à ces nouvelles populations qui étaient déjà des habitants existants, mais ils étaient des habitants existants en période extrêmement vive.
C'est pas la même chose d'aller l'été
et l'hiver, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'il faut là aussi régénérer les choses. Et moi, j'ai vu des territoires où en fait le taux de divorce à la retraite est extrêmement important parce que c'est mal préparé.
Un tout petit mot conclusif, Sophie Bunick.
Oui, et d'ailleurs, pour rebondir sur cette question des réactions, c'est-à-dire de la découverte qu'on fait, des surprises un peu, des mauvaises surprises qu'on peut avoir à choisir des territoires littoraux, ça doit aussi, c'est un enjeu dont on n'a pas discuté, qui est quand même aussi la vulnérabilité aujourd'hui des personnes âgées sur les territoires au réchauffement climatique.
Oui.
Et à des formes de vulnérabilité, donc aussi à des aléas environnementaux, qu'ils soient climatiques, où je vois les séismes au Japon, qui font que les personnes âgées ont des besoins de secours qui vont différer.
Donc penser à beaucoup de choses finalement quand on choisit l'endroit où on veut s'installer à la retraite et même après. Merci beaucoup à tous les deux. Pierre-Olivier Lefebvre, je rappelle que vous êtes délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés, qui incite donc les territoires à s'adapter aux besoins des seniors. Et Sophie Bunick, vous êtes professeure associée à l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières. Géographie à la carte était proposée ce soir par Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis et Valentin Bobinet. La semaine prochaine, nous parlerons du rapport très expansionniste que la Russie a avec ses voisins et singulièrement, malheureusement, avec l'Ukraine à l'occasion de la reparution de l'Atlas historique de la Russie aux éditions Autrement. Dans un instant, le cours de l'histoire sur France Culture.